Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans Alternative, j'interviewe M. Raoul-Marc Génard, docteur en sciences politiques et engagé altermondialiste et spécialiste de politique internationale. Il sera question aujourd'hui du traité qui se négocie en ce moment et que l'on appelle le grand marché transatlantique. D'abord, bonjour M. Génard.
Bonjour.
Alors, je vais vous poser la première question. Dites-moi ce que l'on entend d'abord par Grand Marché Transatlantique ou GMT.
En fait, le titre officiel de ce qui se négocie, c'est Partenariat Transatlantique pour le commerce et l'investissement. Ça, c'est le nom officiel du projet de négociation en français et pour les États-Unis, puisqu'il s'agit de négocier en fait l'instauration d'un marché unique entre les États-Unis et l'Union européenne. Faire de l'espace que représentent ces deux blocs un marché unique, à l'image de ce qu'on a fait depuis 1957. Rappelez-vous, à l'époque, on parlait de marché commun, et puis en 1986, c'est devenu le marché unique. Eh bien, faire un marché unique Europe-États-Unis. Ça, c'est l'ambition. Ce qui est donc veut dire qu'on entre dans une logique qui est celle d'un accord de libre-échange. Mais ce qui est proposé, en tout cas par les gouvernements de l'Union européenne, puisque les gouvernements de l'Union européenne ont adopté un mandat de négociation, ça va bien plus loin qu'un accord de libre-échange.
Et dites-moi, pourquoi on ne trouve pas cet accord sur Internet ?
Eh bien, parce que le 14 juin 2013, lorsque les gouvernements de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le texte d'un mandat de négociation, un document de 46 pages, ils ont convenu avec la Commission européenne, qui est le négociateur, ils ont convenu que le document officiel n'existerait qu'en anglais, et qu'il serait secret, confidentiel.
Donc, qui dit confidentiel dit qu'il y a des choses à cacher.
Alors, l'argument, le prétexte, c'est un prétexte qui est utilisé pratiquement dans toutes les négociations qu'on baptise négociations commerciales, c'est de dire, nous devons protéger nos intérêts, et donc, comme nous négocions avec un partenaire qui a aussi ses intérêts, il ne faut pas qu'on le fasse connaître toutes nos billes. C'est absolument sans aucune pertinence comme argument, puisque de part et d'autre, on connaît très bien les objectifs de négociation. D'autant plus que dans ce cas-ci, très précis, de la négociation avec les États-Unis, les gouvernements de l'Union européenne, pratiquement, propose ce que les États-Unis souhaitent. Donc il n'y avait vraiment aucune raison objective pour garder secret ce document, sauf que ce qui se trouve dedans est tellement choquant du point de vue de la démocratie, du point de vue de notre conception de la société qui nous est commune en Europe, que le rendre public peut susciter des réactions très négatives. Et je pense que c'est la véritable raison, si ce document est secret, confidentiel en tout cas, c'est parce que l'ambition de cette négociation, c'est de bouleverser nos modes de vie, la manière dont nos sociétés sont organisées en Europe, pour aligner nos sociétés sur le modèle américain. Et on sait très bien qu'avec le respect qu'on peut avoir pour les États-Unis et les choix que les Américains ont fait depuis leur indépendance, eux c'est eux et nous c'est nous, c'est pas la même chose. et tout en respectant les États-Unis, le peuple américain et ses choix, nous avons d'autres choix, d'autres valeurs. Quand on parle de normes sociales, de normes sanitaires, de normes environnementales et même de normes techniques, bien, c'est fondé sur des valeurs qui ne sont pas les mêmes que celles qui prévalent aux États-Unis. Donc, révéler cela, c'est prendre le risque d'une opposition et prendre le risque que ça échoue. C'est pour ça que c'est secret.
Et d'autre part, j'ai lu que les firmes multinationales auraient la possibilité d'attaquer les États pour cause d'obstruction à la liberté du commerce. Qu'est-ce qu'il en est ?
C'est un des trois grands axes de cet accord. En fait, il faut peut-être rappeler quels sont ces trois grands axes. Le premier, c'est d'abaisser ou supprimer les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça, c'est typique d'un accord de libre-échange. Mais ce n'est pas indifférent, ce n'est pas neutre. Parce que si la plupart des médias disent « c'est pas grave parce que de toute façon, il n'y a presque plus de droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne », c'est vrai, sauf dans un domaine majeur, l'agriculture. Et l'agriculture est encore, là, je parle de l'agriculture européenne, est encore et fort heureusement protégée par des droits de douane qui varient selon les produits agricoles, mais qui demeurent très importants. Et donc ce n'est pas sans conséquence pour le modèle agricole européen si on supprime à l'entrée de l'Europe les droits de douane sur les produits agricoles américains. Premier élément. Deuxième élément, c'est abaisser ou supprimer ce qu'on appelle dans le jargon les barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, c'est quoi ? C'est ce qu'on trouve dans la constitution d'un État, dans ses lois, dans ses règlements, dans ses décrets, mais pas seulement au niveau de l'État, aussi au niveau, pour la France, par exemple, des régions, des départements et des communes, et qui créent des normes. Normes sociales, normes sanitaires, normes alimentaires, normes environnementales, normes techniques. Eh bien, l'objectif de la négociation, c'est d'arriver au plus petit dénominateur commun.
Le moins disant.
Le moins disant. Et donc, quel est le moins disant ? Pour l'essentiel, il est aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'un alignement de nos choix de société, parce que toutes ces normes dont je viens de parler, ça résulte au fil des décennies, pour ne pas dire au fil des siècles, de choix de société qui ont été faits par les peuples et par les dirigeants successifs. Troisième objectif, et je réponds là maintenant à votre question, eh bien c'est un bouleversement. C'est un bouleversement tellement énorme qu'en 1998, où on négociait déjà dans le secret et où il avait fallu déjà des fuites pour connaître la négociation, quand on a connu ce qui se négociait et qui s'appelait accord multilatéral sur l'investissement, c'est devenu tellement insupportable que le gouvernement présidé par M. Jospin a retiré la France de la négociation. L'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, est de retour, c'est le troisième pilier du projet de négociation, c'est-à-dire du mandat que les gouvernements européens donnent à la Commission pour négocier avec les États-Unis. De quoi s'agit-il ? On appelle ça un mécanisme de règlement des différends. Alors, il y a trois articles dans le mandat qui en parlent. L'article 23 qui concerne les investisseurs, l'article 32 qui concerne les normes sociales et les normes environnementales, et l'article 45 qui concerne tout le reste. Chaque fois, il est prévu de remplacer les tribunaux nationaux, français, allemands, italiens, belges, etc., les tribunaux des 28 États, par ce qu'on appelle des groupes d'arbitrage. Un peu sur le modèle, je dis un peu, sur le modèle de ce qu'on vient de connaître avec M. Tapie. C'est-à-dire, ce sont un arbitrage, un groupe d'arbitrage, ce n'est pas un tribunal. Parfois, on dit, on utilise l'expression « tribunal arbitral ». Ce n'est pas un tribunal. Parce que qu'est-ce que c'est un tribunal ? C'est une institution permanente. Un groupe d'arbitrage est créé au cas par cas. Un tribunal est composé de magistrats qui ont fait des études pour ça, et qui sont encadrés par un certain nombre de lois. Un groupe d'arbitrage est composé de personnes privées choisies par les parties. Un tribunal siège en public. Un groupe d'arbitrage fonctionne dans le secret à huis clos. Un tribunal, en tout cas quand c'est le tribunal de première instance, ben, quand il s'est prononcé, on peut aller en appel. Un groupe d'arbitrage, sa décision, qui est contraignante, qui est obligatoire, est définitive. Vous voyez la différence?
Oui,
ça veut dire qu'on va transférer des juridictions officielles, je pense par exemple à tribunal de commerce ou tribunal administratif, vers le privé, parce que les groupes d'arbitrage, c'est le privé, le pouvoir d'attaquer les pouvoirs publics chaque fois qu'une firme estimera qu'une norme, encore une fois, sociale, sanitaire, alimentaire, environnementale, sera contraire à la liberté de concurrence, au libre-échange, c'est-à-dire à la liberté de la firme privée.
Alors justement, là, j'ai lu qu'il y avait la possibilité de recours, vous l'avez bien dit, contre des plaintes injustifiées et frivoles. C'est quoi, selon vous, une plainte frivole ?
Mais il ne s'agit pas de recours contre des plaintes. Il s'agit de recours contre des décisions. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est l'article 24 du mandat de négociation. Ça concerne les marchés publics. Or, les marchés publics, on en passe au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des départements, et puisque nous sommes en période d'élection municipale, aussi au niveau des municipalités. Eh bien, il est dit que des exigences de localisation dans un appel d'offres seraient une exigence, le mot frivole n'est pas utilisé, déraisonnable. Ça, c'est le mot qui est utilisé dans le texte, des exigences déraisonnables, ou une autre expression qui est utilisée dans le texte, plus rigoureuse qu'il est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Mais prenons un exemple concret. Imaginons que la municipalité de Florac lance un appel d'offres pour les cantines scolaires et qu'elle mette dans l'appel d'offres le fournisseur devra s'installer sur le territoire de la commune et devra faire appel à des producteurs locaux. Voilà deux exigences de localisation qui, en vertu de l'article 24 du projet de négociation, seront considérées comme déraisonnables ou plus rigoureuses qu'il est nécessaire. Et donc, à supposer que, parce que le traité n'est pas encore abouti, la négociation est en cours, elle a commencé le 8 juillet 2013 et on pense qu'elle se terminera en 2015. Mais imaginons qu'elle aboutisse dans les termes du mandat européen, eh bien ça voudrait dire que dans l'exemple que je donne de la municipalité de Florac, qu'une firme américaine qui s'occupe des cantines scolaires pourrait très bien demander de constituer un groupe d'arbitrage pour attaquer la municipalité de Florac, afin qu'elle enlève les exigences de localisation qui sont dans son appel d'offres. Voilà un exemple concret de ce que ça va donner, ce genre de choses que veulent nos gouvernements, et y compris le gouvernement français.
Et ça risque d'être infernal.
Ben, c'est plus que ça. Vous savez, en 1999, un monsieur qui s'appelle David Rockefeller, un multimilliardaire américain, avait donné une interview le 1er février 1999 à l'hebdomadaire américain Newsweek. Et il disait en gros, les gouvernements sont aujourd'hui dépassés et le secteur privé me semble l'entité adéquate pour les remplacer. Nous y sommes. Si cette négociation aboutit et si on signe ce traité de partenariat transatlantique avec les États-Unis, on aura confié le choix. Parce que choisir les normes qu'on accepte et les normes qu'on refuse, c'est le travail des pouvoirs publics, c'est le travail d'un gouvernement. Mmh. Et donc on aura transféré ce choix aux firmes privées. Le rêve de David Rockefeller deviendra réalité.
Et le traité est dangereux pour les municipalités, vous l'avez dit, mais il est dangereux aussi pour les associations.
Mais il est dangereux pour tout ce qui produit des normes, en premier lieu. les associations ne produisent pas des normes. Les associations sont des structures privées qui ne produisent ni des lois, ni des règlements, ni des décrets. Ce qu'on donne aux privés, c'est le pouvoir d'attaquer les pouvoirs publics qui édictent des normes. Alors, les associations sont concernées indirectement. Je prends l'exemple des associations qui se battent aujourd'hui pour interdire la prospection et l'exploitation du gaz de schiste. Eh bien, s'il y a un article dans le projet de négociation, dans le mandat de négociation, qui concerne l'énergie, il porte ce titre-là, c'est l'énergie, et cet article dit qu'il faudra consacrer de la manière la plus totale le libre accès aux matières premières et aux ressources naturelles. C'est-à-dire que si ça passe, les pouvoirs publics abandonnent leur droit de regard sur notre sol et notre sous-sol. Et ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, une firme privée américaine peut très bien attaquer la France, puisqu'en France, il y a une loi qui interdit la prospection de gaz de schiste, pour faire disparaître cette loi.
Et qu'en est-il de la sécurité sociale ? Mais le régime de retraite.
Les normes sociales, et dans laquelle, si on parle large, il faut intégrer la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, elle est attaquée par un autre biais. C'est, en fait, la sécurité sociale, c'est une assurance. Mais une assurance gérée par les pouvoirs publics. Or, il est dit, article 2 et article 3 du mandat, qu'il s'agit aussi d'appliquer pleinement les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et je cite, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà. Or, vous savez que dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, il y en a un qui concerne les services, c'est l'accord général sur le commerce des services.
La GCS.
Et c'est par ce biais-là que la sécurité sociale est mise en danger, parce qu'à partir du moment où on veut libéraliser, c'est-à-dire éliminer les obstacles à la concurrence, l'intervention des pouvoirs publics, le financement par la collectivité, c'est-à-dire par les pouvoirs publics, devient une distorsion de concurrence pour les assurances privées. Et donc, il y a une menace réelle pour la sécurité sociale à travers ce projet de négociation. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les grandes sociétés privées d'assurance poussent à l'adoption de ce pacte transatlantique.
Oui, donc il en va de même pour tous les services, que ce soit
l'éducation... Il en va de même pour tous les services. On sait déjà que ça a commencé, puisque la GCS existe et est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Seulement, la manière dont on met en œuvre la GCS dépend de négociations qui doivent avoir lieu. Le texte le dit, c'est au travers de séries de négociations successives. Quand une négociation aboutit, on dit on a pris des engagements. Alors, nous avons déjà pris des engagements dans le secteur de l'énergie. C'est pour ça que EDF, GDF, ça n'existe plus sous le statut 100% service public. C'est la même chose pour France Télécom. Regardez ce qui se passe dans le domaine des transports ferroviaires. Eh bien, on a déjà libéralisé le transport du fret et maintenant on pousse à libéraliser le transport passager. C'est en cours dans le cadre de la GCS. Mais en fait, et c'est aussi un des objectifs de ce partenariat transatlantique, c'est d'aller plus loin que les accords de l'OMC. Je viens de le dire, dans l'article 3, vous avez cette formule avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels. Fin de citation. Donc, c'est appliquer pleinement et entièrement et aller au-delà à l'Europe, qui freine quand même parfois, et aux États-Unis, les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est une machine de guerre pour remplacer, parce qu'il faut se rappeler que cette volonté-là, elle existait dans le cadre de l'OMC. C'est le fameux cycle de Doha de négociation. Mais les deux tiers de la planète n'en veulent pas, notamment les pays du Sud. Alors, le partenariat transatlantique, c'est aussi une façon de contourner l'obstacle, puisque ça ne marche pas à l'OMC, on va le faire entre nous. Ça, c'est le calcul aussi d'Obama, de Barroso et, il faut le reconnaître, des 28 gouvernements de l'Union européenne, puisqu'on n'a pas pu négocier avec le reste du monde cette espèce de marchandisation de toutes les activités humaines, de privatisation de toutes les activités humaines. Faisons-le d'abord entre les deux blocs les plus riches et les plus puissants du monde, et après on sera en mesure de l'imposer au reste. Ça, c'est le calcul stratégique à la fois des États-Unis et des gouvernements de l'Union européenne.
Alors justement, j'ai une question sur les gouvernements. Comment se fait-il que le gouvernement français, qui était un gouvernement normalement socialiste, cautionne ce genre de projet ?
Mais d'abord, on en a tous les jours confirmation depuis l'élection du président Hollande. La politique qui est menée n'est pas une politique socialiste, sur aucun point. Sur aucun point qui concerne l'économie, qui concerne le social, qui concerne, j'ai envie de dire aussi, les questions d'environnement. Regardez où on en est avec la transition énergétique, où on en est avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est une fiction, l'usage du mot socialisme à propos de ce gouvernement. Je pense, et ce n'est pas original de le rappeler et de le constater, qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a renoncé au socialisme. Et donc, il fait une politique qui, à bien des égards, est la même que celle de son prédécesseur, un gouvernement franchement à droite, et qui même, en tout cas pour, dans certains aspects, va plus loin. Parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose. Bon, c'est commun de le dire, ça va plus loin, par exemple, s'agissant de la chasse aux Roms. Mais il y a autre chose, l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Est-ce que vous vous souvenez, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, le père de l'actuel patron du MEDEF, qui était dans les années 70, le patron de ce qu'on appelait le CNPF, le Conseil national du patronat français, il avait déjà demandé à Pompidou. Pompidou a refusé. Le CNPF a continué à le demander après à Giscard. Giscard a refusé. Mitterrand a refusé. C'est devenu le MEDEF. Le MEDEF l'a demandé à Chirac. Chirac a refusé. Le MEDEF l'a demandé à Sarkozy. Sarkozy l'a refusé. Hollande fait ce que tous ses prédécesseurs ont refusé au patronat français. En matière de quoi ? De démantèlement du droit du travail.
Et ça, c'est un comble. Dites-moi, puisque, a priori, nous allons nous retrouver inféodés aux USA, on va...
Ah ben non, il ne faut pas utiliser des propos aussi pessimistes. Cet accord n'est pas encore signé, la négociation n'est même pas aboutie, et moi, je pense qu'on pourrait rééditer le coup de 98 avec l'AMI. En 98, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a connu le contenu de la négociation secrète, c'était tellement intolérable, mais comme aujourd'hui, que les parlementaires de la majorité de l'époque, une fois qu'ils l'ont connu, et moi je vérifie que les parlementaires de l'actuelle majorité, j'étais encore avant-hier soir à Bergerac, où il y avait une députée Europe Écologie Les Verts, une députée nationale, elle ouvrait des yeux comme ça. Elle n'était pas au courant. Moi je pense qu'on peut rééditer 1998 si on fait un grand travail d'information et que les parlementaires nationaux vont être devant l'hypothèse d'avoir à voter ça. Peut-être feront-ils comme en 98 aller dire au Premier ministre ça, nous ne pourrons pas le voter. Donc rien n'est perdu si on se bat.
Oui.
Si on se bat. Mais vous savez, ils ne sont forts que du silence qu'ils nous imposent. Si on rompt le silence, et comme on a maintenant les documents, on est en capacité de rompre le silence. Et cette interview, c'est une occasion, parmi beaucoup d'autres, de rompre le silence, de partager l'information. Plus nombreux nous serons à connaître cette information, plus forts nous serons pour aller interpeller les candidats aux municipales. Rappelez-vous ce que je viens de vous donner comme exemple pour la municipalité de Florac, les candidats aux européennes après. Parce qu'il y a une grande nouveauté depuis le traité de Lisbonne. C'est que le Parlement européen a désormais le pouvoir, pour un traité comme celui-là, de dire oui ou de dire non, de le rejeter ou de l'accepter. D'ailleurs, ce pouvoir nouveau, il vient de l'utiliser l'an passé pour rejeter un accord sur la propriété intellectuelle, l'ALCA. Il l'a fait. Or, quel Parlement européen ? Celui que nous allons élire le 25 mai. Qu'est-ce qui nous empêche, pendant la campagne des européennes, qui commencera le 1er avril, tout de suite après les municipales, d'aller questionner les candidats et d'aller leur demander, mais si vous êtes élu, l'an prochain, quand on viendra vous donner le résultat de la négociation, si la négociation aboutit, qu'est-ce que vous ferez avec ça ? Parce que nous, nous savons ce qu'il y a dedans. Donc on peut transformer, quelque part, cette élection du Parlement européen en une sorte de référendum pour ou contre le grand marché transatlantique. Et nous pouvons le faire. Et ça ne dépend que de nous, de chacun d'entre nous, citoyennes, citoyens, parce qu'on peut être sûr d'une chose. Le gouvernement, les grands médias, ils n'en parleront pas. Ils n'en parlent pas du tout maintenant. Regardez, le président de la République a fait une conférence de presse dont on a beaucoup parlé à cause de ses parties de jambes en l'air au début de l'année. Il n'y a pas un journaliste qui a posé une question sur le grand marché transatlantique. Blackout, omerta. Je préfère omerta parce qu'il y a un crime derrière ça.
Oui. En fait, il me vient une image là à l'esprit. Là, le traité transatlantique, là, c'est un petit peu comme un vampire. La lumière le fait disparaître.
Absolument, c'est le phénomène Dracula. Voilà. Phénomène qui avait fonctionné parfaitement avec l'AMI.
Avec l'AMI.
Comme l'AMI est de retour, il faut le faire fonctionner de nouveau. Le paradoxe, c'est que Monsieur Hollande soutient aujourd'hui quelque chose que Monsieur Jospin rejetait en 1998. Ce qui donne une indication sur l'aboutissement de l'évolution du Parti socialiste. Il a terminé sa transition vers le libéralisme qui ne le distingue plus en rien de la droite.
J'ai une dernière question, Monsieur Génard. Au regard des événements récents en Ukraine, ne pensez-vous pas que se profile la tentation de la part des décideurs du chantage, le traité ou la guerre ?
Non, je ne pense pas. Il n'y a personne qui pourrait prendre ça au sérieux, d'abord. On n'est pas à la veille d'une guerre. Vous allez voir avec quelle timidité les Européens vont « sanctionner » entre guillemets. La Russie dont ils ont besoin du gaz.
Oui, parce que c'est...
Nous ne sommes pas du tout à la veille d'une guerre. Mais regardez comment les choses se passent sur le terrain, je veux dire en Crimée. C'est contraire au droit international, je ne conteste pas cela du tout, mais on a un passage d'une souveraineté à une autre quasiment en douce. Même si ça se fait sous la pression de soldats russes déguisés en miliciens avec des uniformes sans étiquette, sans possibilité d'intimidation, il n'y a pas un coup de feu qui est tiré. Moi j'ai envie de dire, c'est une histoire évidemment qui viole le droit international. La Crimée fait partie de l'Ukraine depuis 1954, mais c'était une erreur de Khrouchtchev. Ukrainien lui-même, a décidé que ça ferait partie de l'Ukraine en 1954, alors qu'avant, ça faisait partie de la Russie. Et je pense que Poutine corrige une erreur historique. Alors on peut évidemment, et en droit, on doit critiquer la manière. La question aurait pu être posée avec un référendum organisé sous contrôle international, sans aucune pression sur les gens. De savoir si la Crimée, puisqu'elle est composée à 80% au moins de russophones, si elle voulait retourner en Russie ou pas. On a déjà fait des référendums de ce genre. On aura d'ailleurs peut-être un jour un référendum en Wallonie pour demander aux Wallons s'ils veulent devenir français. Mais si ça se fait démocratiquement, sans pression, avec des observateurs internationaux qui garantissent que c'est libre et équitable, on n'a rien à redire. Le problème ici, c'est que ça se fait dans un contexte de contraintes, de pression, et c'est ça qui est intolérable. Ou sinon, en termes de géopolitique, vous savez, quand on connaît l'histoire sur la longue durée, la Russie, elle n'a que deux accès aux océans. Il y en a un qui est bloqué 6 mois par an à cause des glaces. Ça va peut-être changer avec le changement climatique. C'est au Grand Nord. Et l'autre, c'est la mer Noire. C'est la Crimée. Toute l'histoire de la Russie des tsars, de l'Union soviétique communiste et de la Russie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette même obsession, avoir accès aux mers du Sud. Alors, vous me direz encore une fois, ça pouvait se régler autrement que comme la manière qui a été utilisée, qui n'est pas celle de la démocratie. Mais on est dans ce cadre-là. Et moi, c'est du cynisme peut-être. Mais quand on observe les relations internationales, il ne faut pas écarter le cynisme. Des grands théoriciens des relations internationales disaient d'ailleurs qu'en matière de relations internationales, la morale n'existe pas. Je ne cautionne pas. Je préférerais que la morale existe, et moi je suis plutôt dans cette veine-là, professionnellement en tout cas. Mais moi je suis prêt à parier que dans 6 mois, on n'en parle plus.
Et ça nous ramène, ce que vous dites, ça nous ramène au traité transatlantique. La morale n'existe pas.
Non, bien entendu, parce que la morale voudrait que ça se fasse en toute transparence, ces négociations.
Ben oui.
Et quand même, je voudrais dire, parce que ça c'est peut-être le plus important, qu'on ait consulté au moins les parlements, sinon les peuples, avant de commencer de négocier ça. Et ça, on ne l'a pas fait. Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, candidats au présidentiel, n'ont jamais dit, si je suis élu, je soutiendrai l'idée de faire avec les États-Unis un marché unique. Monsieur Hérault, quand il monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter le programme de son gouvernement, ne dit pas « mon gouvernement soutiendra à Bruxelles le projet de négocier avec les États-Unis un grand marché transatlantique ». Ils n'ont pas de mandat, ni des élus, ni du peuple.
Bien.
Et là, effectivement, on se retrouve dans un cas où la morale et la démocratie ne trouvent pas plus leur compte que dans ce qui se passe en Crimée. Je voudrais pour terminer dire, mais tout ceci nous vient de 1990. Parce que 1990, c'est la fin de la guerre froide. Le mur de Berlin est tombé 2 mois plus tôt. C'est la fin de la division du monde en 2 blocs. C'est la fin de la division de l'Europe, coupée en 2. Et à ce moment-là, on pouvait enfin, il y avait là une nouvelle opportunité, on pouvait enfin construire une Europe européenne sur ses valeurs. Or, que décident les gouvernements de ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne? Déjà en 90, ils signent une déclaration transatlantique, qui est l'origine, le partenariat qu'on négocie maintenant trouve son origine dans le choix fait par nos gouvernements de lier le destin des peuples d'Europe au destin des États-Unis. Parce que la première décision de la déclaration transatlantique de 90, c'est on continue l'OTAN. L'OTAN, l'outil de la guerre froide, qui ne servait plus à rien à ce moment-là, on le continue. Et donc, tout vient de là. Et quand on pense que Mme Clinton vient de déclarer que le partenariat transatlantique, c'est un OTAN économique, on a compris dans quelle logique nos gouvernements successifs, de 1990 à 2014, se sont inscrits, s'aligner, lier notre sort à celui des États-Unis. Avec pour conséquence, si ce projet aboutit, que les 28 États de l'Union européenne deviendront 28 colonies américaines.
Eh bien, Monsieur Génard, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Nous sommes édifiés maintenant, un peu plus. Et vous pouvez bien sûr écouter notre émission sur le site www.radiobartas.net. Salut.
Salut.